Seconde partie d'émission qui s'ouvre, vous le savez, va être consacrée à une figure alors riche, complexe, controversée aussi de la littérature du XXe siècle, l'écrivain Ernst Jünger, dont Julien Hervier, notre invité, est non seulement un éminent spécialiste, mais aussi celui qui a établi, avec la collaboration de François Poncet et Pascal Mercier, l'édition en deux volumes des journaux de guerre d'Ernst Jünger, en Pléiade, deux volumes pour deux guerres mondiales, et c'est l'un des attraits majeurs de votre travail que de voir le chemin intellectuel, politique, artistique parcouru entre ces deux événements majeurs par l'un des plus grands écrivains du siècle passé. Vous-même, Julien Hervier, vous avez bien connu Ernst Jünger, évidemment plutôt à la fin de sa vie, la chronologie l'oblige. Rappelons qu'il est né, lui, en 1895, qu'il est mort il y a 10 ans, tout juste à l'âge de 103 ans. Alors vous avez notamment été associé à de nombreuses manifestations qui ont entouré son 90e anniversaire, comme un pied de nez de Jünger à son pays, préférant avoir à ses côtés un universitaire français plutôt qu'un Allemand pour l'interroger. Mais avant de rencontrer l'homme, la première rencontre pour vous avec un texte de Jünger, c'était sur quel livre, quel texte ?
Alors c'est très banal, et c'est quelque chose que je partage avec Julien Gracq, c'est la rencontre avec Sur les falaises de marbre, c'est ce grand roman, enfin grand par la qualité, non pas par le volume, ce grand roman symbolique qui est aussi une prise de position contre toutes les formes de totalitarisme. Et donc j'ai ressenti la fascination que Gracq a ressentie et beaucoup d'autres lecteurs français.
Vous avez lu ça jeune homme ?
Alors j'ai lu ça, c'est ça, j'avais 18-19 ans. Et puis, ils auront bénéficié aussi d'une admirable traduction d'Henri Thomas, une traduction d'écrivain. Évidemment, vaut mieux être écrivain qu'universitaire comme moi quand on traduit, mais enfin, on peut faire des efforts. Et donc, essayer de ne pas se montrer indigne. Mais ça avait été d'abord la rencontre avec un grand écrivain.
Alors en France, c'est vrai, au moins jusqu'à un passé récent, on en parlera peut-être tout à l'heure, Ernst Jünger jouissait plutôt d'une grande considération. Et vous l'avez dit, il le doit en partie l'admiration de Julien Gracq. Et pour ouvrir cette émission, on va l'écouter, Julien Gracq, dans une brève archive de l'INA, parler justement de Falaise de marbre.
C'est un personnage à multiples facettes, Jünger, littérairement et aussi historiquement. Je suis d'autant plus frappé que je l'ai lu, pour ma part, par degrés. D'abord, Les falaises de marbre, je ne savais rien de lui, même pas son nom, je dois dire. Pourtant, il avait publié un livre, Orage d'acier, un récit de guerre qui avait eu beaucoup de succès en France. Mais je ne l'avais pas lu et je ne le connaissais pas. J'ai lu ce livre par hasard, je l'ai raconté, je l'ai lu dans une bibliothèque de gare sur le vu du titre, qui me plaisait. Et j'étais fasciné par ce livre. Mais j'ai lu les autres ensuite. Et en effet, il y a là un livre qui, pour moi, est dans une catégorie à part, hein, qui est certainement lié à l'événement. C'est écrit au moment où va éclater la guerre de 1939, un moment de tension, c'est très visible. Il y a ce phénomène de condensation qui apparaît non seulement à propos de l'époque, hein, telle qu'elle est représentée dans le livre, mais c'est aussi une condensation de sa vie. C'est une condensation biographique tout à fait remarquable parce que les deux personnages centraux qui sont en fait Jünger et son frère, les ermites des falaises de marbre, ce sont d'anciens guerriers, qui ont été tous les deux, qui ont raccroché les armes et qui se sont mis à une vie contemplative, hein, axée sur la botanique et puis surtout sur des rapports analogiques entre les objets de la création qui ont quelque chose d'un petit peu goethéen. Hein. Je crois qu'il n'aime pas beaucoup qu'on dise que son attitude est goethéenne, mais elle l'est tout de même vis-à-vis de la nature assez largement, je trouve.
Alors de Goethe, d'Héraclite, bien sûr, nous parlerons plus tard. Mais alors, je disais, depuis quelques années, Jünger fait quand même l'objet en France de critiques qui sont déjà très anciennes en Allemagne. On va commencer par là, mais je pense que la lecture précise des journaux faite à la fois par Pascal Horry, par Stéphane Grand qui nous a rejoint, et plus modestement par moi-même, nous permettra de mieux voir encore les choses. Alors pour résumer, disons que Jünger a vécu, comme nombre d'Allemands, le traité de Versailles comme une sorte de traumatisme et d'humiliation qui se rajoutait à celle de la défaite, hein, lui qui a donc combattu durant cette Première Guerre mondiale. On va en parler ensemble. Et qu'il a été, du coup, comme beaucoup d'Allemands, assez hostile à la République de Weimar, plutôt sensible au mouvement nationaliste, y compris le mouvement national-socialiste. Pour autant, et j'imagine bien, et je sais bien que c'est votre opinion, Julien Hervé, il s'est démarqué très rapidement du mouvement nazi, dès qu'il s'est rendu compte, il faudra essayer de dater cela peut-être un peu précisément, de son devenir criminel, pour aller là encore une fois assez vite, de cette idéologie nazie. Et après-guerre, Junger a donc refusé, on le sait, de remplir le questionnaire de dénazification. Alors, attitude qui a été jugée par les uns comme une forme d'arrogance, et puis attitude, j'imagine que, à sa suite, vous trouvez logique, lui-même estimant n'avoir rien à se reprocher. J'ai résumé là très rapidement, mais je pense qu'il est important, Julien Hervier, de poser les choses, peut-être.
Tout à fait. Enfin, c'est en tout cas la façon dont j'ai présenté l'attitude de Junger dans l'édition de la Pléiade. Et qui est une édition qui va permettre d'avoir tous les arguments pour et contre. Hein. Je crois que c'est ça qui est important. C'est-à-dire, Junger a été un jeune chien fou qui se sentait étouffé dans la civilisation bourgeoise de la fin du 19e siècle, qui a fait une fugue à la Légion étrangère en France, dont son père l'a rattrapé par la peau du cou, vraiment parce qu'il était mineur et qu'on a pu agir auprès du gouvernement français pour le faire rapatrier. Ensuite, il s'est engagé avec le même enthousiasme, il réfléchit, mais partagé par beaucoup d'autres à l'époque, dans la Première Guerre mondiale où il a été héroïque. Et ensuite, il s'est laissé aller aux tentations les plus extrémistes. Il est resté à l'armée jusqu'en 1923 parce que, à cause de son héroïsme exceptionnel, il était décoré de l'ordre pour le mérite créé par Frédéric II. Il avait reçu 14 blessures, donc il faisait partie des officiers qu'on avait envie de garder dans l'armée. Donc, pendant un certain temps, il n'a pu faire que ses livres de guerre, mais il avait un devoir de réserve. Et puis, en 23, il a quitté l'armée. Et en gros, très peu de temps, parce que dès 29, il écrit moins, il s'est livré à une propagande journalistique d'extrême droite, totalement hostile à la République de Weimar, et trouvant même, au moment où il y a eu des révoltes de paysans du Schleswig-Holstein, que Hitler était trop légaliste. Donc il y a toute une partie là qu'il ne s'agit pas du tout de se dissimuler. Et là, une chose qui est tout à fait importante, je pense, dans l'édition de la Pléiade, c'est que les livres de guerre, en particulier Orage d'acier, a été écrit d'abord comme une sorte de témoignage brut. Ensuite, Junger, qui en a écrit 7 versions différentes, a apporté de plus en plus d'idéologie à l'intérieur de son œuvre. Et à partir de 1933, pour éviter une exploitation malsaine de ces œuvres nationalistes par les hitlériens, il a supprimé les textes les plus virulents. Alors, il aurait fallu 3 volumes de la Pléiade entier pour faire une véritable édition critique avec toutes les variantes. Mais l'édition, de façon tout à fait lisible, je pense, donne un maximum de ces variantes, avec des résumés de passages trop longs quand il y a 12 pages supprimées, et des extraits caractéristiques qui permettent d'avoir une idée extrêmement précise de ce qu'a été le Junger de 23-29.
Alors c'est vrai qu'on va revenir là-dessus, mais je vais d'abord donner la parole à Pascal Horry et Stéphane Grant, mais on va voir comment les journaux de guerre, c'est-à-dire vraiment le travail de prise de notes, donne un roman lui-même, Orage d'acier, qui lui-même connaît 7 éditions successives et effectivement et qui suivent aussi le cours du temps et de la pensée de Junger. Et c'est en ceci évidemment que ce travail est extrêmement précieux. Propos peut-être plus général, Pascal Horry.
Oui, je voudrais revenir, Arnaud, sur votre formule de tout à l'heure. Sur
ce
laquelle,
que j'ai dit.
Mais pour la nuancer, comme on dit, sur laquelle Junger se serait vite démarqué du national-socialisme. Je vais plus loin, il n'a jamais été même une seconde national-socialiste. Non, mais comme l'a très bien dit Julien Hervier, il participe complètement du mouvement de l'extrême droite hostile à la République de Weimar, avec d'autres comme von Salomon ou le grand historien Kantorowicz, bon, qui sera très surpris d'être exclu de l'université allemande en 1933, compte tenu de tous les services qu'il avait rendus, y compris en étant sympathisant de groupes terroristes dans les années 20, l'auteur des Deux Corps du Roi. Donc, bon, voilà, il n'était pas le seul dans ce cas-là. Si on veut prononcer un nom qui ne dit pas grand-chose, sauf à quelques spécialistes comme Louis Dupeux, etc., c'est Ernst Nikisch. C'est ce qu'on a appelé, alors là c'est une étiquette, le national-bolchevisme. Disons plus généralement, et d'ailleurs c'est très, très intéressant de voir à cette occasion que Junger est resté fidèle à Nikisch jusqu'au bout. Nikisch est quelqu'un qui a été successivement marxiste, national-bolchevique, donc situé dans une extrême droite populiste, donc clairement une extrême droite très hostile à la République de Weimar, et il termine presque parce qu'il a encore bougé, notable de la RDA. Bon, et ben, Junger est son ami, quoi. Donc ça permet de complexifier. Je crois que le caractère plébéien, à ses yeux, hein, bon, d'Hitler et plus généralement des élites nazies, lui sortait par les yeux. Franchement, c'est une autre culture. Ça ne veut pas dire que Junger ne participe pas d'une culture nationaliste et qu'il soit fasciné par des solutions organicistes, autoritaires, etc. Hein.
Pour mémoire, je crois, Bardier, qu'il était sensible à tous les mouvements nationalistes, y compris le national-socialisme. Enfin bon, premier propos de Stéphane
Grant. Vous citiez, Julien Hervier, la date de 1929. 29, c'est la date aussi à laquelle Rudolf Hess l'invite au congrès de Nuremberg. Vous dites que dans un premier mouvement, Junger oui. accepte tout d'abord cette invitation et puis finalement il se rétracte. Et puis deuxième chose, Orage d'acier, en effet, cette version écrite, réécrite pour publication, d'ailleurs sur les conseils de son père. Ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi quasiment le caractère prémonitoire de la vision quasiment prémonitoire de Junger sur les événements à venir dans le siècle, puisque notamment dans la préface à l'édition de 1924 de ces orages d'acier, il écrit ceci: nous échangerons de nouveau la plume pour l'épée, l'encre pour le sang, la parole pour l'action, la sensiblerie pour le sacrifice. Nous devons absolument le faire, sinon d'autres nous piétineront dans la boue. Et un tout petit peu plus loin, je le cite toujours, un temps approche d'une brutalité telle que nous ne pouvons pas encore l'imaginer, nous y sommes même déjà plongés.
Alors là, c'est aussi les textes des préfaces que les lecteurs français n'avaient pas et qui sont donnés dans cette édition. Et effectivement, on voit très bien comment Junger prévoyait la Seconde Guerre mondiale, de même que l'expérience de la Première Guerre mondiale lui a permis d'écrire son livre sur la technique, enfin le travailleur, en 1932, qui est un ouvrage extrêmement important, qui a d'ailleurs beaucoup impressionné Heidegger. Et en fait, il a réussi à théoriser de façon un peu plus systématique ce qui avait été ressenti par de nombreux combattants de la Grande Guerre, hein, des malheureux poilus écrasés sous les bombardements à Verdun, à savoir le fait qu'à un moment donné, l'homme se trouvait totalement dépassé par sa technique. Et là, il ne s'agit pas de jouer sur les mots. Hein, il y a des comparaisons. On peut citer Pascal et le roseau pensant qui reste supérieur à l'écrasement extérieur. Mais il n'en reste pas moins que l'homme doit essayer de se défendre contre cette surpuissance de la technique. Alors que nous avons la chance de ne pas vivre, parce que nous ne sommes pas sous les bombes comme des pays actuellement en guerre, mais nous le vivons avec l'informatique, c'est-à-dire que notre liberté, le secret de ce que nous pensons, de ce que nous écrivons, devient extraordinairement menacé. Et donc, il y a une autre dimension qui apparaît déjà de ce qui est apparu aussi menaçant à Junger très tôt.
Salut. Alors revenons au point de départ, parce que c'est vrai que du coup on est parti un peu loin dans le temps, mais revenons sur ce premier tome des journaux de guerre, et bien même avant un peu, puisque vous l'évoquiez, Ernst Junger fut légionnaire avant même d'être soldat. Pour entendre sa voix un tout petit peu, on entend ici Ernst Junger parler justement de cette expérience.
Moi j'avais le numéro 15314. Il y a des chiffres que vous n'oubliez jamais, et pour moi c'est 15314, toujours quand il y avait le courrier, et mes parents m'ont écrit, le caporal a dit 15314, alors j'ai reçu les lettres, et Mais quelquefois, mes parents m'ont aussi envoyé de l'argent, étant donné que notre salaire, ce n'est pas comme aujourd'hui, où vous avez 4000 francs soldat. Non, pour moi, c'était un sou, ça veut dire 4 pfennig. Mais quand même, un litre de vin rouge, de ce lourd vin rouge d'Algérie, coûtait seulement un sou. Alors, j'ai appris là, dans la Légion aussi, de boire du vin rouge, et je me suis accoutumé jusque maintenant, et ça veut dire que ce ne peut pas être très dangereux, le vin rouge.
Voilà, alors Ernst Jünger, vous le dites, hein, Julien Hervier, c'est vrai que dans son travail de diariste, il élimine ce qu'on trouve beaucoup ailleurs, c'est-à-dire les questions intestinales, les questions de nourriture et de boissons, mais quand même, il y a toujours une part de sensualité importante hein, chez Jünger. Et là, on est dans le concret. Alors, partons de ce premier volume et interrogeons l'expérience de ce jeune homme, 19 ans, 1914, qui va se retrouver, comme tant d'autres, dans cette horreur absolue que furent les tranchées de part et d'autre, et puis la précision presque analytique de l'écriture comme à froid de ces journaux, qui évidemment nous interroge. En 1934, il écrira « Rien de plus facile que les idées, rien de plus difficile que la description d'un fait ». Et pourtant, il en décrit d'une façon qui laisse assez pantois sur la maturité même de son écriture. Et cette espèce, on en reparlera aussi, de presque schizophrénie quoi, du soldat Jünger, qui est un héros, qui est toujours en première ligne, blessé 14 fois, de nombreuses fois décoré, et en même temps celui qui peut prendre ses notes. Comment est-ce que vous expliquez ces deux Jünger ?
C'est-à-dire qu'il y a un aspect même presque schizophrénique parfois chez Jünger, et qui est apparu d'ailleurs même quand il était petit garçon, où il avait deux aspects de sa personnalité. Il a raconté ça dans une espèce de pseudo-livre autobiographique, « Les trois chemins d'écolier », où on voit qu'il était tantôt un petit garçon mal dans sa peau, souffrant, et qu'on a d'ailleurs fait soigner par un psychanalyste, et d'autre part, un petit gosse bagarreur qui réglait les problèmes avec les copains à coups de poing. Et donc, il y a eu toujours cet aspect double chez lui, une personnalité engagée physiquement très fort, et puis un contemplateur. D'ailleurs, Plard avait choisi, j'ai eu ce très beau titre, Le contemplateur solitaire, pour une anthologie de textes de Jünger. C'est-à-dire que pour lui, finalement, l'écriture est une façon aussi de mettre les choses à distance, et de même qu'il pouvait oublier totalement un bombardement parce qu'il était en train de lire Tristram Shandy. L'écriture était une façon active pour lui aussi de se retirer d'une émotion trop forte.
Stéphane Grant. Oui, de ce point de vue-là, si l'on voulait continuer de relativiser, justement, vous disiez le terme contemplateur, s'observer soi-même, justement, à la fois dans la distanciation et dans l'action. Ces quelques lignes de son journal, alors beaucoup plus tard, en 1941, mais il écrit ceci, Ernst Jünger, à propos du journal, il ne concerne jamais qu'une certaine couche d'événements qui se produisent dans le domaine spirituel et physique. Ce qui nous occupe au plus profond de nous-mêmes échappe à la communication et, je dirais presque, à notre propre perception. Donc de la relativité aussi, et peut-être de la nature de ce premier journal d'Orage d'acier, qui est un journal sans en être un, qui est aussi une reconstitution de faits, de ces événements du soldat Jünger dans les tranchées. Et ce qui est évidemment très passionnant, c'est d'avoir en même temps la livraison de ces deux tomes, journaux de la Première Guerre mondiale et journaux de la Deuxième Guerre mondiale, les seconds étant pour le coup étant un vrai journal au jour le jour. Et le premier est en quoi alors, de quel ordre exactement littéraire?
Oui, c'est un objet littéraire non identifié. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un Allemand très érudit, un jeune Allemand qui s'appelle Tobias Wimbauer, qui a fait un index extrêmement précieux des personnages cités par Jünger dans son journal et qui n'a pas retenu Orage d'acier et les journaux de la Première Guerre. comme des journaux. Et évidemment, on le comprend parce que Jünger, d'abord, ne suit pas la chronologie, comme doit le faire un vrai journal. Je pense qu'il n'invente pas de choses qu'il n'a pas vécues lui-même.
Vous rappelez, dans votre introduction que Pierre Paché, lui, était sceptique sur la véracité de certains faits relatés dans Orage d'acier.
Enfin, il était sceptique surtout sur la date de rédaction. Alors là, ça ferait un peu dévier, mais on pourrait citer quand même quelqu'un qui a joué un grand rôle dans la critique des œuvres de guerre après 18, c'est Norton Cru, et dans ce livre sur témoin, où il dit au fond, l'essentiel pour que le témoignage soit convaincant, c'est qu'il soit écrit tout de suite. Et il y a beaucoup de témoignages très forts, mais qui ont été écrits très longtemps après, comme celui de Remarque dans À l'Ouest rien nouveau, ou celui de Céline dans le début du Voyage au bout de la nuit. Alors, Jünger est un témoin direct qui note pour lui, sur toute une série de petits carnets, son expérience immédiate. Et puis ensuite, c'est un écrivain, et un écrivain flaubertien. Enfin, j'insiste beaucoup là-dessus, il a passé son temps à lire et à écrire, et qui reprend un matériau brut pour le transformer en considérant de toute façon que le créateur a tout pouvoir sur son texte, on pourrait dire son vécu, c'est un texte, un mot affreux en français, mais ça correspond à Erlebnis en allemand. Donc le créateur est comme un dieu tout-puissant par rapport à ce qu'il a vécu. Donc il y a une reprise en main de cette matière, une reconstruction, et il explique très bien d'ailleurs dans ses notes qu'il faut ajouter des dialogues, qu'il faut rendre les choses compréhensibles aux gens qui n'étaient pas là ou qui ne savent pas ce que c'est qu'une mitrailleuse ou un lance-grenade. Et donc il y a tout ce travail d'écrivain, mais qui est fondé sur une expérience absolument authentique.
Pascal Horry.
Il y a un paradoxe au reste très stimulant dans cette édition de la Pléiade, c'est de nous permettre la confrontation entre quand même deux volumes qui ont leur autonomie et qui dialoguent entre eux. Parce que le premier volume, qui est donc centré et qui s'intitule « Journaux de guerre 14-18 », est composé en fait de textes à caractère de récits, parfois même à la limite de fiction comme Sturm, mais fondamentalement des récits. Et paradoxalement, peut-être que les plus fictifs, mais pour moi c'est pas du tout péjoratif, ce sont les textes de la deuxième partie.
38-48.
Là, on a vraiment un journal écrit au quotidien, mais nourri d'une prise de distance encore plus grande qu'en 14-18, nourrie de lecture, qui d'ailleurs, je ne dis pas qu'elle prolifère, parce que je ne peux pas dire, je ne fais pas une courbe, mais on a l'impression que plus les bombardements s'intensifient, plus il lit l'Apocalypse ou Léon Blois. Et c'est fascinant.
Nourri de rencontres.
Et donc, d'une certaine façon, c'est encore plus littéraire quand il écrit au jour le jour.
Julien Hervier.
Alors, au jour le jour, il se donne aussi l'autorisation de transformer. Par exemple, il y a un épisode très frappant qui concerne une nuit passée avec une jeune femme. C'est un épisode qui a été noté par Jünger. Il sent une main charmante qui lui caresse le visage. C'est un épisode qui est devenu un épisode onirique dans le journal. C'est l'épisode de Dorothée. Dorothée est un personnage fabuleux qui apparaît dans les Jeux africains, le récit où il raconte son expérience de la Légion. Et c'est une sorte de divinité protectrice de l'enfance qui intervient de temps en temps, qui lui signale par exemple qu'il a acheté un revolver dont la sûreté est cassée et qui risque donc de se tuer. Il est obligé de le jeter tout de suite. Et ce personnage tout à fait étrange de Dorothée réapparaît dans ce journal et on se rend compte en regardant le texte original que c'est le personnage d'une jeune femme et la date de l'épisode change trois fois. Jünger, pour des raisons probablement de composition, déplace donc une première date et deux déplacements de date. On a trois dates différentes pour cet épisode.
Donc c'est un vrai écrivain. Voilà.
Alors, mais sur la place, la fonction du rêve, il y aurait beaucoup à dire. Mais peut-être avant de faire encore un aller-retour entre ces deux journaux, dire qu'il y a quand même, donc, on pourrait dire que pour Jünger, comme pour tous, mais en tant qu'écrivain, la guerre, c'est l'expérience du réel dans son paradigme. paroxysme d'une certaine façon, et que donc le rapport à la guerre, il est quand même très présent. Il y a ce texte qui est dans le premier volume, un texte bien connu, et je crois que vous ne goûtez guère, le combat comme expérience intérieure, qui est quand même une sorte de alors là on en revient à Héraclite, la destruction comme force de création, enfin bon, tout détruire pour pouvoir tout reconstruire. Mais le rapport à la guerre, justement, il change entre le premier et le second volume, notamment les idéaux chevaleresques de Junger sur le front de l'Est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, on n'est plus du tout dans le même rapport. Et là, on sent très bien cet homme qui vient du 19e siècle, qui se retrouve face à cette guerre dans laquelle il ne peut plus se reconnaître. Il y a vraiment un changement absolument fondamental dans son rapport à la guerre, là.
Alors, on le sent dans l'expérience, effectivement, de la guerre dans le Caucase. On le sent, on dirait maintenant, profondément déstabilisé par ce qu'il est obligé d'apprendre sur le comportement de ses compatriotes sur le front de l'Est. Et là, finalement, Junger n'a jamais pris des positions explicites pour défendre la Wehrmacht. Mais je pense qu'il a été totalement ébranlé dans son respect d'une tradition chevaleresque où on cherche à tuer l'adversaire, mais on ne le méprise pas. L'adversaire est quelqu'un d'aussi digne
qu'on respecte.
Que soi, qu'on respecte. Et quand il s'est rendu compte de la barbarie absolue des armées allemandes sur le front de l'Est, il n'a pu y répondre que par le silence.
Stéphane Grant.
Oui, on voit bien d'ailleurs ce que il va bien falloir venir aussi à toutes les controverses qui ont lieu autour de Junger, mais on voit bien évidemment à la lecture de ces seconds journaux de guerre, donc Seconde Guerre mondiale, ce qu'il peut y avoir d'extrêmement, comment dire, scandaleux, voire surréaliste à la lecture de ces notes prises en effet au jour le jour de ce grand intellectuel qui, en plein conflit, lit La vie de Jésus de Renan, Talmand des Réaux, la Bible, Crébillon fils, Conan Doyle, Huxley, j'en passe, qui fréquente le Ritz, le Meurice, la Durée, l'Hôtel Raphaël, Maxime, la Tour d'Argent,
et même Arlequin,
etc. etc. Journaux de guerre où il n'est en vérité quasiment pas question des conflits, du front et de la guerre.
Sauf justement
sauf par touche, ou par exemple, alors je note ceci, page 310 de ce second volume de la Pléiade de ces journaux de guerre, dans la rue Royale, l'écrit Ernst Junger, j'ai rencontré pour la première fois de ma vie l'étoile jaune. Je considère cela comme une date qui marque profondément, même dans l'histoire personnelle, et puis un peu plus loin aussi, sur la résistance des Juifs au ghetto de Varsovie. C'est la première fois, écrit-il, qu'ils se battent, comme jadis contre Titus ou pendant les persécutions des croisades.
Il y a ça, mais en même temps, il y a aussi l'hôtel Raphaël, c'est monter sur le toit, boire un verre de vin en regardant comme Zemmour les bombardements.
Et en mangeant des fraises.
Et alors là, si vous voulez, ce passage-là, je vous signalerai quand même une chose, c'est la vie qui continue. C'est-à-dire le jour même de ce fameux bombardement. D'ailleurs, je ne prends pas parti là-dessus. Hein, je partage votre sentiment.
Vous dites juste, Julien Hervier, qu'au fond, on pourrait dire qu'il s'agirait d'une sorte de pose et de dandisme comme système de défense. Ça, c'est
certainement
quand même prendre un peu parti.
Oui. mais disons que le soir même de ce bombardement, c'est le bombardement au soleil couchant, le tout Paris se pressait à la première de huis clos, Jean Guéhenno en tête. Et donc, l'intelligentsia française, y compris de gauche...
Elle ne dépareille pas dans le Paris de l'époque.
N'allait pas poser des pansements aux blessés de Boulogne-Billancourt. L'intelligentsia de gauche était là, au théâtre, pour une première prestigieuse.
Il n'était pas le seul à se comporter mal, c'est donc, ce que vous voulez dire, Julien Hervier.
Je veux dire que... est-ce que c'est se comporter mal
que de continuer à vivre.
De continuer à vivre, mais je ne prends pas ça en plaisanterie. Hein,
non, mais j'entends bien.
C'est quelque chose d'extrêmement grave. Hein,
Pascal Horry.
Pour souffler successivement le chaud et le froid, d'abord pour aller quand même dans le sens de Junger, je crois que la guerre est présente dès la première minute, je parle de la Seconde Guerre mondiale, dès la première minute, mais à sa façon, parce qu'être officier d'une armée d'occupation, c'est une manière d'être en guerre. Très paradoxal, puisque mon père a été officier d'armée d'occupation en Allemagne, dans l'armée américaine. Bon, c'est un des plus beaux souvenirs de la famille, évidemment, être du côté de l'occupation, vous savez. Bon, deuxième point, et quand même, il y a la mort du fils. Ouais. Donc, je veux dire, ça se rapproche.
En Italie. Hein,
et là, on sent qu'il y a une fracture définitive. À partir du moment où il apprend, d'ailleurs, avec plusieurs mois de retard, début 45, la mort de son fils, dans les carrières de marbre de Carrare, donc falaise de marbre. Et puis, pour souffler un peu le froid, il y a quand même cette sorte d'échec philosophique, me semble-t-il, de Junger, au moins jusqu'à 45, c'est-à-dire que, on a parlé de dandisme, en tous les cas, cette façon de poser une nostalgie chevaleresque et d'être perpétuellement déçu, mais j'allais dire même dès le mois d'août 14, d'une certaine façon, il est confronté et bon. Je me demande si c'est pas quand même effectivement cette sorte de mythologie sur laquelle s'est construite évidemment toute une partie d'ailleurs de l'intelligentsia des élites françaises comme un, hein, parce qu'il y avait le chevaleresque français du Guesclin et compagnie, Bayard, et puis la confrontation, et on a l'impression que dès 14 le verre est dans le fruit. Simplement, à partir de 45, j'allais dire que, bon, ben, tout s'étant effondré, l'entomologiste voyageur a trouvé une solution. Mais il y a quand même quelque part, me semble-t-il, un échec philosophique de Junger qui va, non pas se replier, mais enfin, qui va se recomposer une philosophie pour un désastre.
Julien Hervier.
Alors là, je crois aussi qu'une chose importante par rapport à cet échec philosophique de l'ancien Nietzschéen qui était Junger, c'est la façon dont il se tourne vers le christianisme. Oui. Il lit deux fois la Bible en entier pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est non seulement une façon aussi de se tourner vers le peuple d'Israël, et il a justement des problèmes avec la censure allemande parce qu'il cite dans un Zeirut, enfin il évoque sans le citer, le psaume 73, Dieu est bon pour Israël, et l'aidera à triompher de ses ennemis. Il y a ce recours à la Bible lu deux fois dans son intégralité, dans la mesure où finalement, Junger, à ce moment-là, a certainement l'impression que les religions sont encore une barrière au déchaînement de la bestialité pure que, pour lui, chacun recèle. Hein. C'est-à-dire que tout homme est initialement une bête sauvage domptée par un certain nombre de barrières culturelles, mais qui ne demande qu'à se déchaîner de nouveau. Et donc, par rapport à cette tradition chevaleresque de l'armée, je pense qu'on peut abonder dans votre sens en disant qu'il a eu besoin de quelque chose à distance de quoi il s'est toujours tenu autrefois, à savoir l'enseignement chrétien de la Bible.
Parce que, conversion, entre guillemets, au catholicisme.
Enfin, pendant la Première Guerre mondiale, il disait qu'il était franchement athée. Hein.
Voilà. Oui, mais alors justement, un saut dans le temps, mais c'est une question immense, la conversion de Junger, c'est en 101 ans. Comment est-ce que vous expliquez ce moment-là?
Écoutez, pour moi, je ne suis pas là très différent de gens extrêmement proches de Junger. Pour moi, c'est une conversion qui est plutôt une mise en conformité avec un rituel, parce que la vision que dégage toute l'œuvre de Junger n'est pas celle du rapport à un dieu personnalisé.
C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est pour ça.
Simplement, c'est un peu aussi comme Descartes disant qu'il faut adopter la morale du lieu où on se trouve. Hein, et Junger se sentait culturellement abrité dans le monde chrétien, où il avait d'excellents rapports avec le curé de sa paroisse. Il a eu un enterrement catholique avec de la très belle musique et tout un décorum. Depuis le génie du christianisme, nous savons ce que cela signifie. Et simplement, en Allemagne, on est obligé de déclarer sa religion. Comme vous savez, il n'y a pas la séparation de l'Église et d'État. Donc, il faut dire « je suis catholique, je suis protestant, je suis athée ».
Enfin, il y avait vous qui avez été le témoin de la rencontre de Ernst Junger et François Mitterrand en 93, vous disiez déjà qu'il ne parlait que de la mort, de ces allers-retours possibles qui fascinaient tant Junger. Dernière, peut-être très très courte remarque,
Stéphane Grant. Puisqu'on parlait de la visite de Mitterrand à Junger, vous, en effet, dans la chronologie abondante de sa vie, dans ces deux volumes de la Pléiade, vous citez les visites aussi de Helmut Kohl, nombreuses, enfin plusieurs fois en tout cas, le chancelier Kohl est allé rendre visite avec Mitterrand ou sans d'ailleurs, mais à Junger. Mais aujourd'hui, le regard que porte l'Allemagne contemporaine sur le parcours et l'œuvre de Ernst Junger. Hervier.
Alors, il y a toujours des adversaires fanatiques de Jünger, et ça, ça ne changera jamais. Ce qui m'a frappé, c'est que cet été a vu la parution de deux grandes biographies de Jünger. L'une écrite par un universitaire et l'autre par un journaliste. Et l'accueil critique a été d'abord énorme. Enfin, il y a eu 70 articles. Et dans l'ensemble, cet accueil est objectif et favorable. C'est-à-dire que même, enfin, il y a peut-être sur cette foule 4 ou 5 articles vraiment agressifs. C'est-à-dire que les Allemands ont plutôt tendance maintenant à reconnaître l'importance de ce très grand écrivain de leur XXe siècle et à le juger à distance.
Peut-être fallait-il qu'il disparaisse pour pouvoir avoir un rapport un peu plus apaisé. 30 secondes, mais il faudra peut-être qu'on en reparle un autre jour.
Oui, plus longuement sur ces Badrieux que l'on croise justement parmi les nombreuses rencontres que fait Jünger pendant la Deuxième Guerre mondiale.
On le
croise une fois, au moins.
Si on parle de Badrieux et La Rochelle, c'est pour la sortie de Notes pour un roman sur la sexualité suivi de Parc Monceau, une édition établie et présentée par Julien Hervier à la NRF chez Gallimard.
Oh bah je cite Julien Hervier au début de sa préface. Les notes pour un roman sur la sexualité ne sont pas des notes pour un roman sur la sexualité, entre guillemets, mais une confession dérangeante, âpre, sans concession. En effet, et sans après, Audrieux abaisse sa garde pour se mettre à nu avec cette sincérité brutale qui fait de lui, à ces moments d'extrême tension, un très grand écrivain.